France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les studios de guitare. Ravi de vous retrouver chaque semaine à l'antenne de France Musique. Musique brésilienne aujourd'hui, nous recevons Gaël Solal qui sort un album la semaine prochaine, le 20 mars précisément, sur le label Fuga Libera. Ça s'appelle Rio et c'est un disque dans lequel elle est accompagnée de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Roberto Beltrán Zavala. Un programme magnifique et ambitieux, le concerto de Villa-Lobos, un concerto de Clarice Assad, une suite de Chiquinha Gonzaga, du Nazareth. Bref, on parlera avec elle de tout ça tout à l'heure et on a hâte de découvrir et d'écouter. Gaël Solal se chargera également de notre séquence guitare de légende en fin d'émission dans laquelle on aura droit à un petit live. Et avant de recevoir cet artiste à notre micro, j'avais envie de commencer tout en douceur avec ce dialogue entre Grant Green et Barney Kessel. Ils jouent ensemble le thème « I Wish You Love ». C'est un extrait enregistré en live le 26 octobre 1969 au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Thank you.
Clint Green et Barney Kessel respirent l'air doux et tiède de la bossa nova et font vivre avec élégance et esprit cette mélodie et ses accords. J'adore la tranquillité qui se dégage de cette séquence. Ce côté très posé, on peut décortiquer les impros ou alors se laisser glisser. C'est clairement une musique à vivre, une musique de toutes les heures qui tempère le stress, qui accompagne la rêverie, qui stimule l'imagination. Alors après, moi, quand je commence à écouter les couleurs riches et les accords de guitare très resserrés et savoureux de la bossa nova, j'entends toujours la voix de João Gilberto dans un coin de mon oreille. Et je me suis souvenu de cette Undiu qui s'étale sur plus de 6 minutes. Je voulais le partager avec vous, laissez-vous aller, ça fait du bien. C'est comme une séance d'hypnose, on imagine ce qu'on veut. Un peu de soleil, le bruit des vagues qui va et qui vient, et on embarque dans un minimalisme un peu sucré. Et quand on se réveille, bah ça va mieux.
Mm-hmm.
Voilà, là ça y est, on est bien détendu grâce à cette undiu, cette bossa nova minimaliste, complètement hypnotique, qui paraît improvisée sur le moment. Et avant d'accueillir à nos micros notre invité, Gaël Solal, c'est important de se réveiller en douceur, ça tombe bien. João Gilberto est toujours là. On écoute son Aguas de Marco, une mélodie composée par son camarade Antonio Carlos Jobim.
Sozinho, um caco de vidro é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, caingá, candeia, uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, um pingo pingando, uma conta, um conto, um peixe é um gesto, é uma prata brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando, é a lei. Projeto da casa, o corpo na cama, carne guiçada, é a lama, um passo, uma ponte, um sapo marrão, um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, uma cobra, um pau, é João, é José, um espinho na mão, um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco, um pouco sozinho. Um passo, uma ponte, um sapo marrom. Um belo horizonte, uma febre tensão. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco, um pouco sozinho. Um caco de vidro, a vida é o sol. É o anzol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco um pouco sozinho, um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, caingá, candeia, uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de massa, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, um pingo pingando, uma conta, um conto, um peixe é um gesto, é uma prata brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, estilhaço na estrada, o projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Uma cobra, um pau, é João, é José. Um espinho na mão, um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco, um pouco sozinho. Um passo, uma ponte, um sapo marrom. São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida.
vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
João Gilberto joue Tom Jobim, un combo dont il est difficile de se lasser.
France Musique, guitare, guitare. Sébastien Linares.
Bonjour Gaël Solal, on est ravis de vous avoir à notre table.
Et bonjour Sébastien.
Alors, on vous reçoit notamment parce que vous sortez votre disque très bientôt, là, ces prochains jours, qui s'appelle Rio, un programme ambitieux. Avec orchestre.
Complètement.
Ça se prépare depuis longtemps, ça, non ? Comment ça s'est...
Ah bah surtout celui-là, c'est une production qui m'a pris 7 ans, donc c'est pas mal.
Ah oui,
en
depuis longtemps, donc.
Voilà. Ouais. Entre l'idée et ensuite la réalisation, et ensuite comprendre que produire un disque avec orchestre, c'était vraiment très très dur, puisque c'est moi qui produis le disque.
D'accord.
Voilà, donc c'est une grande aventure. C'est un peu un Everest. J'ai sué, mais j'y suis arrivée, mais c'était beaucoup plus difficile que ce que je ne pensais.
Et vous êtes dans quel état émotionnel ? Parce que j'imagine, au bout de 7 ans, quand quelque chose arrive comme ça, ça doit être un peu remuant.
C'est très particulier parce que quand le CD est arrivé, là, la palette avec tous les CD sont arrivés, je l'ai ouvert, j'ai été émue par l'objet. Je pense qu'on l'est un peu tous quand on reçoit son CD, mais surtout quand le projet a mis du temps. Et donc là, maintenant, il y a la promotion et c'est particulier parce que j'ai même... c'est un peu difficile de le réécouter, de regarder, de l'ouvrir, de revérifier le livret que j'ai vérifié des millions de fois pour qu'il n'y ait pas de coquille. Donc je dois encore me familiariser, je pense, avec l'objet, mais bon, ça va venir.
Est-ce qu'on peut, avec vous, détailler un peu le programme ? Vous ouvrez avec le concerto de Villa-Lobos ?
Complètement. Donc ça, c'est vraiment un des piliers du répertoire guitare et orchestre, le concerto de Villa-Lobos, qui pourtant n'est pas énormément enregistré.
Pas beaucoup, par rapport à d'autres.
Exactement. Et puis, ensuite, il y a la suite Chiquinha Gonzaga. Donc, dans mes recherches, je voulais faire cette grande filiation musicale à Rio. Mmh. Et j'ai commencé à écouter la musique de Chiquinha Gonzaga, qui est incroyable. Et je me suis dit que c'était quand même... ça fait partie... Voilà, on dit que Villa-Lobos est le grand-père de la musique brésilienne. Donc, Chiquinha serait la grand-mère. Donc, il était temps de lui donner de la place. Le seul petit grand problème, c'est qu'elle n'a pas du tout écrit pour la guitare.
D'accord.
Ce qui ne m'a pas empêché de me dire je vais l'inclure. Et donc j'ai fait une commande à un musicien de Rio, à Paulo Aragao, qui est un très grand guitariste et arrangeur et compositeur. Et je lui ai dit voilà, il faut qu'on imagine une suite orchestrale pour guitare et orchestre avec des grandes pièces marquantes de Chiquinha. Okay. Et je lui ai demandé particulièrement que la guitare ne soit pas forcément que soliste. Je voulais que la guitare fasse partie de l'orchestre. D'ailleurs, on l'entend. Voilà, je voulais être une musicienne de plus de l'orchestre ou de l'ensemble. Et c'est fantastique de pouvoir des fois accompagner des solos de la partie des vents, etc. Donc c'est vraiment une autre position.
Thank you.
Et ensuite, il y a le concerto qui a inspiré tout ce disque, qui est le concerto Osasi Perere, donc de Clarice Assad. Oui. Et là, c'est le premier enregistrement mondial, ce qui est tout particulier, puisque ce concerto était écrit en 2013 et en 2026.
Waouh.
Voilà, donc il en faut du temps pour que les concertos se gravent et se fassent. Et ce qui me tenait aussi vraiment à cœur, parce que chaque fois que j'ai essayé de demander à des programmateurs qu'on programme ce concerto, on m'a dit, mais oui, mais bon, on ne sait pas à quoi ça ressemble, quelle forme ça a, quelle est la taille de cette bestiole. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut l'enregistrer. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre du répertoire concertant, et c'est très bien écrit, c'est très, très équilibré. Je conclue le disque avec un bis, qui est comme un clin d'œil, à mon dernier disque, Tout Où. Donc, c'est Brejero d'Ernesto Nazareth, que j'avais gravé en solo, dans mon arrangement. Et là, j'ai demandé à une de mes amies, à Elodie Bouni, de faire un arrangement pour guitare et cordes, pour clôturer vraiment comme un bis. Voilà.
Comment ça se passe, les répétitions, quand on produit un disque avec orchestre?
Alors, en fait, ça va très, très vite. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, là, dans la façon de produire ce disque, c'est aussi une coproduction avec l'Orchestre Royal de Wallonie. Mmh. Après, moi, j'ai fait énormément de travail de pré-production, ce que je n'avais pas fait sur les disques précédents. Donc, je me suis très bien entourée. Donc, la directrice artistique du disque, c'est Elodie Bouni, qui est guitariste. Okay. Et qui a fait sa thèse de doctorat sur l'équilibre dans les concertos pour guitare et orchestre. Donc, c'est vraiment une grande spécialiste du concerto.
Ça peut être vraiment utile, ça.
Ah, bah, complètement, parce qu'on se pose souvent la question. Ouais. On a fait des séances de pré-production en se disant, voilà, ça, c'est les endroits très difficiles en termes d'équilibre. Ouais. Ça, c'est les endroits aussi difficiles en termes de mise en place. Donc, on a balisé au maximum, hein, parce qu'on ne peut pas tout baliser. On a ensuite rencontré aussi le chef pour baliser ça en pré-production. Pour ensuite arriver lors des répétitions, lors de l'enregistrement, et de ne pas perdre de temps sur tout ça.
Et pour tourner le disque en live, il y a des versions du coup plus légères où vous amenez tout le monde avec vous tout le temps.
Non, malheureusement, on peut pas. On peut pas. Mais donc c'est pour ça que j'ai tout de suite imaginé que certainement la diffusion avec orchestre se ferait dans la saison, pas celle-ci, mais la prochaine. Même s'il y a des dates avec orchestre sur cette saison, notamment on fait une sortie à Bruxelles fin juin, et puis il y aura une date en Allemagne avec orchestre. Voilà. Mais donc là, j'ai imaginé donc une première version carrément en solo. Carrément, ouais. Où je joue des pièces de Nazareth, de Villa-Lobos, je joue les cadences des concertos, qui sont des pièces en soi, hein, vraiment, ouais. Hein, voilà. Et puis des arrangements de Chiquinha Gonzaga pour guitare seule, voilà, comme ça, pour faire découvrir cette compositrice qui, selon moi, vraiment a besoin a besoin d'éclairage. Et il y aura une version avec quatuor à cordes, voilà, et qui sera aussi l'occasion justement à la salle Corto là en avril le 13 de montrer. Donc là, pareil, j'ai réquisitionné Elodie Bonny, j'ai réquisitionné beaucoup de monde pour ce disque, pour qu'elle me réalise des arrangements donc de 7 pièces d'Ernesto Nazareth, en plus donc de ce bis qu'on avait déjà pour guitare et quatuor à cordes. Et donc là, avec des morceaux qu'on connaît énormément, Escorregando, ce qu'on connaît toujours, et puis des pièces moins connues comme Plangente, qui est magnifique. Donc c'est à la fois découvrir et puis redécouvrir. Voilà. Donc il y a la version solo, la version avec quatuor à cordes, la version avec orchestre complet, la version avec orchestre à cordes. Voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de possibilités.
Vous êtes passionné de musique brésilienne. Est-ce que vous travaillez ces musiques aussi par le prisme des musiques traditionnelles ?
Ah, complètement. Ce que j'ai beaucoup apprécié lors de mes premières visites au Brésil, c'est de voir qu'il n'y a vraiment pas de frontière entre musique classique et musique populaire. Que ce soit les musiciens qui jouent de tout. Il y a vraiment, on met beaucoup moins de cases qu'on le met souvent en Europe ou dans la musique classique parfois. Et j'aime beaucoup cette idée de... On abolit les frontières et en fait tout est musique. Et donc on considère tout à la fois comme musique erudita, comme ils disent, musique avec partition, mais à la fois comme musique populaire où moi je travaille énormément avec des percussions pour travailler sur ces rythmes, pour avoir ce groove-là. Et par exemple, dans le concerto de Clarisse, il y a énormément d'influences de la musique populaire. Okay. Et dans la musique de Chiquinha Gonzaga, c'est baigné de musique populaire. Donc il faut avoir cette rigueur rythmique, ce fameux groove qu'on est. On cherche tous comme un Graal. Enfin, tout comme moi, je recherche comme un Graal. Mais à la fois aussi ces grandes mélodies qui pourraient parfaitement être des mélodies de musique classique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bon mix de toutes ces influences.
Thank you. on vous connaît comme quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de projets, qui mène beaucoup de choses en parallèle, des choses très, très diverses. Est-ce qu'avec un énorme projet d'envergure comme celui-ci, ça laisse la place quand même aux autres ?
Compartimenté, c'est-à-dire que pour la première fois, et je recommande, enfin je ne suis pas là pour donner des conseils, mais pour la première fois, j'ai pris un mois avant l'enregistrement de ce disque, j'ai refusé des concerts en fait. Okay. C'est-à-dire qu'au mois de 7 ans, je n'ai pas donné de concerts.
Commencer à savoir dire non, vous
voilà,
voulez dire.
Voilà, c'est incroyable. C'est la première fois. Et donc voilà, donc, c'était vraiment très difficile, mais je me suis dit en fait, je vais me mettre en danger et je n'ai envie de faire que ça, parce que et c'était même pas assez un mois, j'aurais même voulu en avoir plus, mais je me suis remerciée a posteriori de me dire voilà, en fait on ne peut pas aller au bout de ce qu'on fait si vraiment on n'est pas dans l'immersion complète de ce répertoire. Et puis c'est ça, je l'avais aussi sous-estimé, c'est que comme lors du concert en fait, ben je tiens le crachoir pendant 1h10, enfin pendant 1 heure sur ce disque, mais au concert aussi, c'est-à-dire que je suis venue, j'ai joué mon concerto de Villa-Lobos, je suis ressortie et puis je suis rentrée et puis je suis ressortie, et donc j'ai fait 4 allers-retours, mais c'était tout le temps moi la soliste. Donc voilà, et donc ça je l'avais un petit peu sous-estimé en temps réel. Par contre, dans la préparation, j'ai pour la première fois aussi imaginé que j'allais être une athlète et que ça allait aussi se jouer sur l'endurance physique, mentale, morale, parce que enfin c'est difficile quand on arrive au troisième concerto, on est claqué quoi, donc. Et alors, j'ai appris sur ce disque quelque chose aussi, parce que j'ai mis très longtemps avant de pouvoir commencer à insérer une discographie, et je suis, on va dire, assez lente. Je ne fais pas un disque par an. Le dernier date de 2020, donc voilà. Mais parce que c'est des projets ambitieux, où il y a des découvertes. Voilà, je sors un peu des sentiers battus. Et puis, ça demande aussi, c'est moi qui produis tout, donc ça demande aussi de récolter des fonds. Et donc, j'avais développé, à force d'attendre d'enregistrer, j'avais développé une certaine phobie du studio d'enregistrement. Je suis passée un peu au-dessus quand j'ai fait tout, parce que c'était dans une église et j'avais un super directeur artistique. Mais là, avec orchestre, j'ai dû vraiment faire face après aux réécoutes multiples des semaines de post-production. Et voilà, je pense que je suis vaccinée. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
Une petite dernière question. La dernière fois qu'on vous avait reçu à ce micro, vous nous aviez parlé de l'association Guitare Elle. Ça en est où ?
J'aimerais que ce soit beaucoup plus développé, mais je n'ai pas le temps, malheureusement.
Au niveau des effets
Mais il y a des effets que moi je vois, parce que donc c'est un travail beaucoup plus souterrain, donc ça ne se voit pas. C'est plus, on va dire, du lobbying. J'aime pas ce mot-là, mais c'est la vérité. Donc je prends plus mon téléphone pour parler avec les gens. Et je vois tout doucement des mentalités changer et des programmations changer. Et je vois qu'il y a une attention particulière. J'ai même reçu quelques messages de gens qui m'ont dit « Oui, ça m'a fait changer d'avis de la discussion. » Parce que ce n'est pas des discussions musclées, c'est des discussions juste pour se poser la question, de se dire « Est-ce qu'on y a pensé ? Est-ce qu'on a besoin de non ? Est-ce qu'on peut quand même s'améliorer sur la proportionnalité ? Est-ce qu'on peut avancer là-dessus ? » Et donc, je vois des mentalités qui évoluent.
Mais ça fait plaisir.
Et ben voilà, ça fait plaisir.
Moi, je les vois aussi. Merci beaucoup d'avoir été à nos micros.
Merci beaucoup, Sébastien.
Sébastien Linares.
Aujourd'hui, dans Guitare de légende, un moment live avec Gaël Solal.
Une étude de Fernando Sor, j'allais dire l'étude 5 parce qu'en fait c'est sa numérotation dans une sélection d'Andrés Segovia, et je pense qu'on est beaucoup à la connaître comme l'étude 5, mais en fait c'est pas du tout l'étude 5, c'est l'étude opus 35 numéro 22 pour être précis. Cette étude me tient vraiment à cœur pour beaucoup de raisons. D'abord parce que les études, c'est les petits morceaux qu'on joue quand on est enfant, quand on débute. Et il y a des études de tout type de difficultés. Et chaque étude vient chercher pour travailler juste une seule difficulté. Et cette étude-là, je trouve difficile de dire quelle est la difficulté qu'elle traite. Oui, il y a des barrés, il faut travailler la mélodie, l'accompagnement. Je dirais qu'en fait, c'est une étude sur la simplicité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop, mais quand même assez pour qu'elle ait des belles lignes, pour qu'on entende bien les phrases, qu'on entende bien les harmonies. Et pour moi, c'est une étude qui me rappelle mon enfance et mes études littéralement de guitare quand j'étais jeune élève à Marseille au conservatoire avec mon premier professeur René Bartoli. Et chaque fois que je joue cette étude, je pense à lui. Et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus il y a de nombreux conseils qui me reviennent en tête. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je fais qui viennent de ces années d'études, de mes 6 à mes 15 ans au conservatoire de Marseille, Place Carli, pour ceux qui connaissent. Et cette gentillesse dans l'apprentissage, et puis cette joie que j'avais d'aller au cours, le cours de guitare chaque semaine, c'était mettre ma guitare sur mon dos et sautiller pour y aller. C'était un vrai bonheur. René Bartoli avait très vite compris que ce qui me motivait, c'était un peu le challenge, et donc chaque semaine, si j'avais bien travaillé mon étude, j'avais droit à une nouvelle étude. Et donc celle de sort, quand elle est arrivée, c'est, je pense, quand on a tout ce moment clé où on se dit « Ah oui, ça c'est vraiment très beau » et on a une sensation d'arriver à faire quelque chose et soi-même d'être un tout petit peu ému par ce qu'on fait en tout petit degré. Et je pense que c'est lors de cette étude que je me suis dit « Ah oui, c'est quand même très très beau » et voilà, donc ça fait partie de mes moments, on va dire, « waouh » de quand j'étais jeune. Voilà. Après, Fernando Sor, c'est beaucoup de choses, c'est un compositeur marquant pour la guitare. Mais cette étude aussi, elle a été utilisée dans un sketch de Raymond Devos que j'ai découvert bien plus tard, j'ai des doutes. Et ça me fait toujours autant hurler de rire, cette étude de sort de Fernando Sor, qui était espagnol de sa naissance à sa mort. Voilà, je ne vais pas vous le refaire. Mais voilà, elle est marquante pour plein de raisons. Et elle me tient à cœur. Et maintenant, c'est tout nouveau. Depuis quelques mois, je la joue en bis parce que je veux rendre hommage à mes professeurs et à tous ceux qui font que je suis en fait sur scène maintenant. Voilà, donc c'était l'étude numéro 5 de Fernando Sor.
C'était Gaël Solal, dont vous pouvez guetter la sortie du nouvel album intitulé Rio et que l'on va tous aller écouter à la salle Cortot de Paris le 13 avril. Elle sera accompagnée du quatuor Ardeo. Thank you. Guitare Guitare était aujourd'hui réalisé par Patrick Lérissé, enregistré par Claire Levasseur et préparé avec l'aide de Valentin Lévy-Chaudet. La semaine prochaine, on écoutera du John Dowland avec notamment le dernier enregistrement de Borzulian et Clara Brunet. Et Yann Perrand sera notre invité. D'ici là, rendez-vous sur le site et l'appli Radio France. Si vous voulez vous abonner au podcast et regarder les vidéos, consulter les programmes en détail et nous écrire bien sûr.
France Musique.